C'est le Mars des femmes sur Radio BLV.
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 Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale dans le cadre du Mars des femmes. Je suis en train... Voilà, on est en direct, voilà, et ça va aller beaucoup mieux. Et vous le savez, vous participez toujours à la petite cuisine interne de Radio BLV. Alors je la refais. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette émission spéciale dans le cadre du Mars des femmes sur Radio BLV. Une émission consacrée aux sages-femmes et à la place de la grossesse et de l'accouchement dans notre société, et puis plein d'autres choses, mais aussi qui nous permettra de se poser la question de la dépréciation des métiers féminisés et de la lutte des sages-femmes hospitalières pour leur corporation, aussi bien que pour l'ensemble des femmes. J'ai le plaisir d'accueillir Elisa Etienne, sage-femme coordinatrice des parcours de soins en milieu hospitalier. Bonjour Elisa.
Bonjour.
Emeline Théry, sage-femme territoriale PMI et CPEF en libéral, et aussi sapeur-pompier volontaire experte sage-femme en Ardèche. Bonjour Emeline.
Bonjour.
Et Sophie Loyal, sage-femme et échographiste libérale. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors pour lancer les discussions, eh bien je vous propose avant toute chose trois définitions du métier de sage-femme. Alors pour le Larousse, praticien exerçant une profession médicale à compétences limitées au diagnostic et à la surveillance de la grossesse et à la pratique de l'accouchement. Pour le Robert, personne dont le métier est de surveiller la grossesse et d'assister les femmes lors de l'accouchement. Pour le dictionnaire des académiciens, celle dont la profession était d'accoucher les femmes désigne aujourd'hui l'auxiliaire de santé qualifié qui accompagne les femmes pendant leur grossesse, qui pratique les accouchements ou aide à leur bon déroulement et qui dispense des soins post-natales. Alors, comme vous l'avez entendu, les nuances sont d'importance dans la manière dont on définit les choses. Et pour information, notamment, le Larousse nous parle de... le métier de sage-femme est ouvert aux hommes depuis seulement 1982. Et pourtant, le Larousse nous parle bien de praticien, vous avez remarqué, non pas praticien ou praticienne, et le dico des académiciens met au masculin l'auxiliaire de santé. Nous voilà de plein pied dans nos sujets, qu'il s'agisse de définition du métier, du risque de sa dépréciation ou de la reconnaissance de la place des femmes ici comme ailleurs. Avant toute chose, peut-être à chaud, une petite réaction sur ces trois définitions, parce que je peux vous dire que ça réagit en studio.
Alors,
Elisa,
il me semble qu'aucune des trois définitions ne correspond à la définition du métier de sage-femme. Les sages-femmes, c'est une profession médicale. Nos compétences sont définies dans le secteur de la périnatalité, mais absolument pas limitées. Profession médicale, ça veut dire que nous sommes autonomes, que nous avons les compétences de poser un diagnostic, les compétences de prescrire les examens complémentaires nécessaires à la bonne prise en charge, c'est-à-dire la prise en charge sécure sur le plan médical et bienveillante pour nos patientes. Donc nous ne sommes pas des auxiliaires médicales, nous sommes bien des professionnels de santé à caractère médical et notre champ de compétences n'est absolument pas uniquement celui de l'accouchement. Nous ne sommes pas des accoucheuses, nous prenons en charge nos patientes dès l'adolescence jusqu'à la ménopause. Nous nous occupons des nouveau-nés durant le premier mois de vie. Donc réduire nos compétences à l'accouchement, c'est très réducteur.
Les deux autres, est-ce que vous avez, Sophie, Emeline, vous avez quelque chose à rajouter à ça?
Elisa le décrit très bien. Je pense que vraiment le problème vient de la définition même, c'est-à-dire que les gens ne savent pas ce que nous sommes. Et les gens qui le définissent sur une croyance, mais sans peut-être nous poser la question à nous de ce qu'on est. Il est important qu'on le fasse savoir.
Ce qui est quand même hallucinant, c'est que c'est pas Wikipédia, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même le Larousse, le Robert, le dictionnaire des académiciens qui sont a priori des références. Donc Emeline, tu veux rajouter quelque chose face à ça? Sinon que ça vous met en colère.
Non, je partage la vision de mes collègues. Après, les compétences des sages-femmes ont beaucoup évolué aussi ces dernières années. Et on voit que les définitions de ces dictionnaires sont un petit peu obsolètes.
Ah oui, voilà. Je vous trouve très gentille quand même.
Has-been.
Alors, on rentre dans notre échange, une espèce de table ronde, voilà, où on va parler un petit peu à bâton rompu aussi. Avant de... Voilà, on continue, mais pourquoi vous avez... Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, chacune, nous présenter votre parcours professionnel? Parce que, justement, il y en a de singuliers. Et puis, pourquoi vous avez choisi ce métier, ou ces métiers, on pourrait presque dire maintenant, aussi pour certaines. Allez, Emeline.
Mon parcours, j'ai choisi le métier de sage-femme puisque je souhaitais partir sur une profession médicale. Donc j'ai intégré la faculté de médecine. Au terme de la première année de médecine, donc j'ai choisi de continuer sur la filière sage-femme. Et puis comme à beaucoup de mes consoeurs, j'ai commencé par quelques années en hospitalier. Et puis les choses de la vie ont fait qu'à un moment donné, j'ai eu la possibilité d'intégrer le département en tant que sage-femme territoriale. Et puis à temps plein, et puis ensuite à mi-temps, sur un territoire qu'on peut qualifier d'un désert médical. Donc il y avait beaucoup de choses à offrir sur ce territoire. Donc j'ai complété mon exercice à mi-temps de territorial par un exercice libéral. Les choses de la vie ont fait que aussi, voilà, je me suis retrouvée sur mon petit désert médical avec mes patientes qui étaient très loin de la maternité, qui accouchaient parfois de façon inopinée avec les pompiers, à rencontrer le monde des pompiers et à devenir sapeur-pompier volontaire, expert sage-femme pour pouvoir intervenir auprès des accouchements inopinés sur mon secteur.
Et j'imagine qu'il y en a... Est-ce qu'il y en a beaucoup? Enfin, j'imagine non, d'ailleurs, c'est bête, parce qu'on est plein de clichés, mais est-ce qu'il y en a beaucoup?
Ça dépend des périodes. Voilà, on a eu un été très actif, hein, parce qu'on va dire que sur juillet-août, sur l'ensemble du département de l'Ardèche, on avait une naissance inopinée par semaine.
Ah, quand même, oui.
Quand même. Et puis là, cet hiver, c'est plus calme. Voilà. Après, il y a des interventions aussi qui vont être sur des départs de début de travail. Voilà, c'est pas forcément sur des accouchements, mais il y a aussi des interventions autour des débuts de travail. Ou alors sur des patientes qui ont dans un contexte psychosocial un peu délicat, qui n'ont pas de moyens de transport et qui font assez facilement appel aux pompiers pour ça.
Et l'éloignement d'une maternité, c'est vraiment le cœur, un des cœurs du problème?
Oui. Oui, oui. Il y a ce côté, voilà, difficulté psychosociale, mais il y a quand même la géographie qui fait que, voilà, si c'est une dame qui a accouché déjà de façon rapide, bah, si elle a une heure et demie de la maternité, clairement...
Ça peut pas le faire.
Ça marche pas, quoi.
Ok, mais c'est important de le dire, parce que c'est vrai que vous palliez, mais il n'empêche que...
On pallie, oui,
voilà,
c'est ça.
Ça n'est que, voilà, que du palliatif.
Après, les compétences sont assez larges, hein, puisqu'on vient, voilà, entre le travail en territorial, libéral et auprès des pompiers, on va explorer... Enfin, j'exploite toutes mes compétences de sage-femme, c'est-à-dire la gynécologie, l'obstétrique, la pédiatrie, l'urgence, le soin programmé. Le métier de sage-femme est très, très large et on peut en faire quelque chose d'hyper passionnant. Après, c'est intense au quotidien, mais c'est hyper passionnant.
Merci Emeline. Alors, bah Sophie, allez, on part dans l'autre sens.
Alors, moi, je pense que j'ai toujours su que je voulais faire un métier dans le médical, lequel exactement, c'était pas très clair. Et quand je me suis rendu compte que le métier de sage-femme est un métier de transmission, de connaissance de soi et de transmettre cette connaissance aux femmes, c'est quelque chose avec lequel je crois que je suis à l'aise de leur expliquer comment elles fonctionnent dans la physiologie. Ça va repérer aussi quand ça ne fonctionne pas comme il faut. Et vraiment, au quotidien, dans mon travail, donc moi, je suis sage-femme libérale, je fais aussi tout ce qui est gynécologie, obstétrique, et puis le suivi des bébés le premier mois, comme disait Elisa. Et j'adore les accompagner dans tout ce qui est très féminin. J'apprécie beaucoup le côté technique, le côté diagnostic. Donc, je me suis très vite... reconnue en tant qu'échographiste. Donc, c'était un diplôme que j'ai passé plusieurs années après avoir eu mon diplôme de sage-femme. Je suis allée le passer à Paris. Et du coup, ça, c'est vraiment très exaltant pour moi. C'est une partie qui est toujours programmée, rarement dans l'urgence, mais qui amène à des diagnostics qui sont des fois difficiles, douloureux à annoncer. On est peu formé à l'annonce, mais c'est une partie de mon métier que j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est assez complémentaire. Moi, je ne suis pas dans une zone désertée. On est nombreuses comme sages-femmes sur le secteur où je travaille. Je crois que les patientes nous connaissent bien là où on est. Et on est arrivé à un équilibre que j'aimerais pouvoir voir se répandre partout en France avec les médecins généralistes qui nous reconnaissent dans nos compétences, qui travaillent avec nous, qui m'envoient leurs patientes, qui viennent pour la plupart même au cabinet pour eux. Enfin, pour elle, du coup. Et du coup, ça, c'est un équilibre qui est parfait, sans jugement. Et on est
un vrai travail en collaboration.
Un vrai travail en collaboration. C'est un exemple à donner.
Tu es sur quel secteur, toi ?
Moi, je suis sur le secteur de Cré. Bon, sans nommer, évidemment. Il y a quelques anciens médecins généralistes qui doutent encore un peu de nos compétences, qui ne savent pas trop d'où on sort, à quoi on sert. Mais toute la génération des plus jeunes qui ont été formés avec nous... savent très bien ce qu'on est, ce qu'on vaut, ce qu'on vole rien, ce qu'on apporte.
Bien sûr.
Et moi, j'ai envie qu'on travaille en équipe. Il est hors de question de créer sur... Enfin, toutes les professions médicales sont intéressantes. Et ce qui est important, c'est d'augmenter l'offre de soins, que les patientes puissent trouver leur équilibre. Donc voilà, sur Cré, c'est fait. Et il faut vraiment que ça se répande.
Merci. Et toi, Elisa, alors ?
Alors moi, j'ai toujours voulu effectivement travailler dans le médical. Tout comme Sophie, c'est dans un second temps où j'ai été très attirée par la périnatalité. Sage-femme, pour moi, c'était être en première ligne, au plus proche des femmes. Et c'est ce qui m'a tout de suite plu, motivée. J'avais très envie de travailler en milieu hospitalier parce que effectivement la complémentarité entre les différents professionnels autour de la périnatalité me plaisait. J'ai travaillé ensuite sur des projets, la mise en place de la sage-femme en hospitalisation à domicile, donc l'HAD obstétrique. Et je me suis rendu compte que travailler sur des projets où on pouvait valoriser les compétences des sages-femmes, les mettre en première ligne quand ce n'était pas déjà le cas, déployer toutes les compétences qu'on avait au service des femmes, ça c'était très moteur pour moi. C'est pour ça que ce poste aujourd'hui de sage-femme de coordination des parcours de soins me plaît particulièrement parce que je coordonne énormément entre la ville et l'hôpital. Et effectivement, je confirme ce que dit Sophie, c'est-à-dire qu'on a la chance d'être sur un territoire où il n'y a pas de concurrence, chaque professionnel se respecte, on travaille en très bonne intelligence effectivement avec les généralistes, avec les gynécologues de ville, où on est complètement complémentaires dans le suivi de nos patientes. Ça, c'est important. Voilà, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question.
Est-ce que qu'est-ce qui a été moteur, toi, au départ ?
Au départ, c'était vraiment d'être en première ligne, c'est-à-dire que je partage ce que dit Sophie. Moi, j'avais envie de la technique. Beaucoup de technique, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas sage-femme libérale.
L'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? L'équipe au plus proche. L'équipe au plus proche de moi, peut-être que c'était aussi une sécurité. Mm-hmm. J'étais vraiment consciente que sage-femme en libérale, elles sont toutes seules. Donc là, pour le coup, il faut être sacrément autonome. Il faut se mouiller dans le diagnostic. C'est compliqué. Et peut-être que le travail de lien que je fais, je suis là pour elles au quotidien, pour faire les liens avec les médecins spécialistes quand elles en ont besoin. Voilà, peut-être que j'avais besoin d'un
lien précieux.
Oui, un lien précieux. Peut-être que j'avais besoin de ça. Voilà.
Il y a un côté corps à corps, première ligne, et puis en même temps, lien, c'est... Vous avez dit des choses très, très fortes aussi, c'est être au service de, c'est la transmission, il y a vraiment c'est de l'humain, alors là, à 300%, on est vraiment dedans. Ce que je vous propose, allez, on va commencer, on va faire notre première pause musicale parce qu'en fait, elles sont venues avec plein de choses, de belles choses à écouter. Donc, on va faire une première pause musicale et on va faire une première pause musicale. On va faire une petite comme un voyage dans l'histoire. On va commencer par effectivement une chanson historique, si l'on est. C'est La femme et l'avenir de l'homme de Jean Ferrat, le poème d'Aragon, enfin qui fait un clin d'œil au poème d'Aragon. Et vous m'avez dit, c'est parce que je disais, ouais, c'est amusant parce que bon, vous êtes des jeunes femmes. Et je crois que c'est Elisa qui tu m'as dit, oui, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'avoir quelque chose qui fasse le lien, de montrer que cette lutte des femmes, cette bataille permanente qu'on est obligé de mener, elle date pas d'hier, quoi, en fait.
Non, elle date pas d'hier. Aujourd'hui, les sages-femmes, elles se battent pour les femmes et elles se battent pour elles aussi, puisqu'on est une profession effectivement majoritairement féminine. Et c'est un combat qui ne date pas d'hier. Voilà, le droit des femmes à l'accès aux soins, ça reste compliqué aujourd'hui. Le droit des femmes pour l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, ça reste très très compliqué encore aujourd'hui. Dans les deux cas, les sages-femmes sont présentes et sont là pour les prendre en charge. Et je trouvais effectivement que cette chanson faisait un petit clin d'œil aux plus anciens, peut-être aux anciens médecins dont parle Sophie, qui doutent encore de nous, de nos compétences et de la légitimité de notre présence dans la périnatalité, tant en obstétrique qu'en gynécologie qu'en pédiatrie.
Alors je vous propose qu'on écoute tout de suite donc Jean Ferrat et puis on continue tout de suite après.
Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume.
face aux autres générations. Je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
Jean Ferrat, La femme et l'avenir de l'homme sur Radio BLV 93.6. C'est le Mars des femmes sur Radio BLV et vous écoutez une spéciale sage-femme avec nos trois invités, Elisa, Emeline, Sophie. Sage-femme de métier avec des spécialités différentes. Je disais en préambule que Elisa, on est rentré en contact avec toi. Voilà, soyons clairs. Tu es sage-femme coordinatrice des parcours de soins en milieu hospitalier et aujourd'hui en grève.
Oui.
Alors, j'aimerais bien qu'on fasse un petit focus justement sur votre mouvement et sur les revendications. Et pour savoir un petit peu ce qu'il en est.
Alors, aujourd'hui, les sages-femmes sont en grève parce que nous souhaitons que le statut médical qui est le nôtre depuis 1803 soit enfin reconnu de façon effective dans notre quotidien. Être une profession médicale, donc, c'est être autonome. Nous sommes complètement autonomes dans le suivi normal de la grossesse et le suivi normal gynécologique. Et sur le suivi de l'enfant le premier mois de vie. Donc nous souhaiterions que cette autonomie, elle soit reconnue, qu'on nous fasse confiance dans nos compétences. On a un regard expert en obstétrique. On est formé pendant 4 années. Une année, on présente le concours de médecine qu'on doit réussir. Et ensuite, on a 4 années de spécialité où on ne fait que de la gynécologie, de l'obstétrique et de la pédiatrie. Donc c'est dire qu'on sait ce qu'on fait et c'est dire qu'on peut nous faire confiance. Une profession médicale, c'est une profession qui a un droit de prescription. On a des compétences qui sont définies dans le champ de la périnatalité et on aimerait que les femmes puissent le savoir. On est régulièrement oubliées, méprisées, humiliées, parfois même dénigrées. Alors ça, c'est un premier problème. Le second problème, c'est que les femmes ne savent pas quelles sont nos compétences et donc elles ne sont pas forcément suivies. On a 30% des femmes qui n'ont pas de suivi gynécologique, mais en fait, les femmes ne savent pas que les sages-femmes peuvent réaliser ce suivi. Donc on est censurées, il n'y a pas de campagne du tout sur les compétences des sages-femmes, donc pas de campagne de communication. Les femmes, du coup, sont dans l'ignorance de savoir ce à quoi elles ont le droit. Et aujourd'hui, les sages-femmes, effectivement, se mobilisent pour que ce statut médical y soit reconnu et qu'on en parle et que les femmes soient correctement suivies, en sécurité, bien sûr, mais aussi en bienveillance. Les sages-femmes ont des compétences médicales, évidemment, mais on a aussi une prise en charge psychologique et sociale, ce qui permet d'avoir une prise en charge globale au plus près des besoins des patientes. On se bat aussi parce que, comme le soulignait Emeline, on a un panel de compétences et une possibilité d'offre de soins qui est très large. Et effectivement, dans les déserts médicaux, la sage-femme maille le territoire. C'est-à-dire qu'on est souvent en première ligne pour qu'il y ait un suivi. Ce maillage, il est primordial et en Drôme-Ardèche, les sages-femmes sont présentes effectivement dans les déserts médicaux, dans les PMI, dans les transports urgents. Dans la Drôme, on a une sage-femme qui est au SAMU. Donc si on met une sage-femme dans les transports urgents, c'est que vraisemblablement son regard expert en obstétrique est le bon. On accueille les femmes aux urgences gynécologiques et obstétricales, donc c'est que vraisemblablement, de nouveau, on reconnaît nos compétences. On les reconnaît, nos compétences, puisqu'on nous sollicite et on les élargit, ces compétences, puisqu'on va expérimenter l'interruption volontaire de grossesse instrumentale. Donc, quelque part, on nous fait confiance. On aimerait que la rémunération suive. Nous, on est là, on joue le jeu pour les femmes, avant tout, évidemment. Mais c'est compliqué pour nous de ne pas avoir une reconnaissance salariale. Donc la reconnaissance du statut médical, la reconnaissance salariale et puis l'obstétrique, c'est une spécialité dont l'activité ne diminue pas, si ce n'est peut-être effectivement avec la crise sanitaire. On ferme des petites structures pour des motifs qui sont entendables et légitimes. Mais du coup, on concentre l'activité dans des grosses maternités et les effectifs sages-femmes sont régis par des décrets qui datent de 1998. Donc c'est obsolète, comme dirait Emeline. Moi, je suis un peu plus en colère, donc je dirais que c'est complètement has-been et qu'on ne peut pas, on ne peut pas se poser la question des effectifs aujourd'hui pour prendre en charge les couples, la femme, le père et correctement le nouveau-né, toujours dans la sécurité et la bienveillance. Donc c'est voilà, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas, on peut pas négliger la bienveillance pour la sécurité et inversement. Il faut absolument revoir les effectifs. Et notre première demande au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y ait pour chaque femme en salle de naissance une sage-femme. Voilà, c'est comme ça, ça qu'on prendra correctement en charge.
Ça paraît hallucinant que vous soyez obligé de revendiquer.
Ça fait longtemps qu'on revendique ça.
Ça fait très longtemps et peut-être qu'aujourd'hui la différence c'est qu'il y a une demande des femmes. Les femmes veulent un suivi en bienveillance. On dénonce les violences gynécologiques et obstétricales. Bien sûr, on sait qu'il y a des violences gynécologiques et obstétricales. On le sait parce que c'est notre métier que de dépister. On est dans la prévention. Et dans nos entretiens prénataux, précoces, où on s'attache effectivement au médical, évidemment, mais aussi au bien-être psychique, moral de nos patientes, on sait qu'elles vivent des violences sexuelles, des violences morales, des violences physiques. Et parfois, elles nous parlent également des violences gynécologiques et obstétricales, ce qui est particulièrement douloureux pour une sage-femme.
Bien sûr.
Je n'ai absolument pas fait ce métier pour m'entendre reprocher des violences. Donc oui, on aimerait qu'il y ait une sage-femme pour chaque femme en salle d'accouchement.
Alors, ces revendications autour de, que ce soit le statut médical, reconnaissance salariale, ben, si vous étiez la seule profession, ça se saurait, qui revendique ça pour les femmes. Mais on se dit ici aussi, c'est quand même dramatique, les effectifs. Oui.
Je pense que si la profession était masculine, la rémunération de base ne serait pas la même. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est un vrai salaire par rapport à nos responsabilités et nos compétences. On veut pas de l'argent de poche, on veut un vrai salaire.
Mais c'est ce que j'allais dire, c'était un peu l'idée au départ dans l'introduction. C'est aussi de dire effectivement la dépréciation des métiers dits féminins ou en tous les cas féminisés. Et ça se voit, il y a des courbes. Hein. Alors, le métier de sage-femme a toujours été féminin, mais on le voit dans d'autres métiers où les femmes sont de plus en plus présentes et les courbes sont inversement proportionnelles. C'est-à-dire, au plus il y a de femmes, au plus les salaires baissent. C'est quand même hallucinant.
Le métier de sage-femme a été défini comme profession médicale, comme les médecins et les dentistes. Qui étaient, eux, représentés essentiellement par des hommes, hein, les médecins et les dentistes. Et quand les grilles salariales ont été établies, donc ils nous ont donné la profession. Ils ont reconnu cette profession médicale. Mais nous, notre salaire n'est pas du tout en comparaison comparable avec un dentiste, par exemple. Les dentistes ont des grilles qui sont des grilles, même que les médecins, au titre de praticien hospitalier. Et nous, on n'a absolument aucune comparaison. On a très peu d'années d'écart d'études entre les dentistes et les sages-femmes. Donc, c'est hallucinant.
Moi, je voudrais rebondir sur ces années d'études, puisqu'on est une profession où on est très exigeant, en fait, avec nous. Et tout à l'heure, Elisa disait qu'on avait 5 années d'études, donc une année commune d'études de médecine, puis ensuite 4 ans de spécialisation. Il faut quand même savoir que sur ces 4 ans de spécialisation, on a plus d'heures de cours, de stages sur ces 4 ans, enfin, sur nos 5 années au total, que nos collègues en odontologie, donc dentistes, en 6 ans.
C'est hallucinant.
Et on nous rajoute des compétences sans augmenter les années d'études. Donc ce sont des années qui sont très concentrées, très denses très pour dense. Les étudiants en maïeutique aujourd'hui.
Mmh. Moi, je suis... Je ne m'étais pas renseignée, j'ai travaillé à l'hôpital, mais je ne m'étais pas posé ces questions-là. Et là, maintenant, là, clairement, je me les pose. En libéral, c'est pas trop le cas parce que, par exemple, la consultation de sage-femme est au même tarif que la consultation d'un généraliste. Je pense qu'on prend pas le même temps de consultation, mais ça me semblerait vraiment gonflé pour de vrai demander plus. Donc, ça me semble assez juste. Mais à l'hôpital, c'est C'est incroyable, cette différence de salaire.
C'est inadmissible.
C'est inadmissible. C'est pas comme... Voilà, il ne faut pas 200 euros de plus par mois. Mmh. C'est même pas comparable. Mmh. Voilà.
C'est-à-dire que les médecins et les dentistes ont un statut médical qui est reconnu. Nous, on a un statut médical aussi. Et dans la réalité de notre quotidien, on n'est pas traité de façon égale. Mmh. Donc, j'ai un statut médical, mais si je vais travailler dans une autre maternité, un centre périnatal de proximité, par exemple, je n'ai pas de prime de territoire comme mes confrères médecins. Par exemple. Donc, à statut égal, on a un traitement différent. Probablement, effectivement, parce qu'on est une majorité de femmes.
Mais ce que j'allais dire, est-ce qu'on explique ça ? Est-ce que ça s'explique ? Et on vous donne quoi comme explication ?
On nous donne pas vraiment d'explication.
C'est comme ça.
On nous donne pas vraiment d'explication.
Non, il n'y a pas vraiment d'explication. Et en fait, on a quand même pour de vrai un statut qui est un peu entre deux dans notre pratique au quotidien. On me rappelle à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on nous demande d'avoir une autonomie qu'on aime prendre d'ailleurs. Hein, c'est pour ça qu'on est là. Et en même temps, par exemple, quand on est dans la pathologie, on va avoir un statut qui est plus qui est plus un statut infirmière, puisqu'on a la connaissance de la pathologie, puisqu'on l'a apprise et qu'on doit être là pour la diagnostiquer, mais on va faire des gestes sur prescription du médecin. Donc on a une espèce de statut, parfois entre deux, qui arrange tout le monde, qui arrange le gynéco, mais...
Et qui prime.
Et en fait, il faudrait vraiment que les choses soient clairement définies, c'est-à-dire que dans la physiologie, on est seul et autonome. Et quand ça devient la pathologie, on devient auxiliaire de, peut-être. Mais en tout cas, on est là dans la physiologie complètement. Et on est là aussi dans l'élaboration de ce diagnostic, puisque c'est nous qui transférons au gynéco. Quand le médecin généraliste se rend compte d'une pathologie qui le dépasse, non pas parce qu'il manque les connaissances, il les a les connaissances, mais il n'est pas cardiologue, il n'est pas hématologue, enfin à un moment donné, il n'est pas spécialiste. Il transfère, ça ne le dévalue pas, ça ne le rend pas auxiliaire du spécialiste. Il est médecin à part entière, capable de repérer une anomalie, et il transfère. Nous, c'est exactement la même chose. On est là dans la physiologie, on s'occupe en plus de tout ce qui va être difficulté sociale, difficulté de couple, enfin voilà. Après, on n'est pas du tout psychologue ni assistante sociale, et non, on transfère d'ailleurs, si voilà. C'était le problème. Mais il ne faut pas qu'on soit dévalué quand on transfère pour de la pathologie. C'est pas entendable. Moi, je sais que je travaille avec des patientes. Des fois, il y en a certaines. J'ai pu voir quelques commentaires où des patientes étaient choquées par ça, en le signant comme une incompétence. Non, c'est pas une incompétence de transférer quand on se rend compte que c'est au-delà.
Au contraire,
bien sûr. C'est une grande qualité. Moi, quand je vais voir le médecin et qu'il me dit, eh bien, je vais faire cet examen. S'il est normal, je gère. S'il n'est pas normal, vous irez voir le spécialiste. Je trouve que c'est un bon généraliste qui a fait son travail, qui est allé au bout de ce qu'il pouvait faire. Il faut arrêter de nous dévaluer en permanence. Il faut arrêter de nous oublier. Et quand on a des campagnes sur la réalisation des frottis, on n'est pas des techniciennes du frottis. L'objectif, ce n'est pas juste de frotter un col. C'est de l'analyser, de savoir quand est-ce qu'il faut le faire et de ce qu'on en fait de ce résultat. Ça, c'est notre compétence. C'est un examen gynécologique. On n'accueille pas les femmes comme quelqu'un dans un laboratoire juste pour faire un prélèvement. On l'englobe dans une consultation. C'est un ensemble de choses.
La réponse qu'on nous a faite, Sylvie, c'est qu'on fait le job pour pas très cher et que
tellement
du coup,
pratique.
C'est peut-être pas utile de nous augmenter. Ça a été aussi très violent, puisqu'on parle aussi de la maltraitance. Effectivement, on fait le job parce qu'il y a une demande de nos patientes et parce que l'offre de soins, il faut qu'elle soit là. On compte beaucoup sur notre professionnalisme, on compte beaucoup sur notre engagement. Mais si, en fait, il faut que la rémunération suive, parce que le risque, c'est qu'il n'y ait plus de sage-femme. C'est que les étudiants en médecine ne choisissent plus la filière maïeutique, parce que, comme le disait Sophie, on ne se pose pas forcément ces questions-là, mais quand on arrive sur le terrain et qu'on voit la responsabilité, l'autonomie, le panel de compétences que l'on peut ou pas forcément déployer, et c'est bien dommage, on a envie... quand même que la rémunération suive. Donc on voudrait être respecté dans ce statut médical et on voudrait être rémunéré d'égal à égal.
Ça fait partie de la reconnaissance. Hein. C'est aussi simple que ça, oui. Emeline.
Et pour être connu, il y a aussi, voilà, on a besoin d'avoir des avancées législatives, entre autres. Et je pense qu'il y a quand même des choses qui bloquent au niveau corporatisme. On disait tout à l'heure qu'il y a quelques anciens médecins, par exemple, qui peuvent douter nos compétences ou ne pas les reconnaître. Aujourd'hui, les médecins avec qui on travaille sur le terrain, hein, clairement, ils y connaissent nos compétences. On travaille en équipe, en totale transparence. Enfin, en tout cas, dans ma pratique, j'ai un très bon lien avec les médecins avec lesquels je travaille. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand les lois sont examinées, il y a beaucoup de médecins aussi qui sont à l'Assemblée nationale, au Sénat. Là, sur la dernière, l'actualité fait que la loi RIST a beaucoup de, il y a pas mal d'articles qui feraient évoluer la profession de façon déjà favorable. Sur le comité paritaire mixte, il y avait au moins un tiers, voire la moitié de médecins et ou pharmaciens. Donc en fait, c'est eux qui légifèrent sur ce que nous, on a le droit de faire ou pas faire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu délicat. Ouais.
Et tu as mis tout ça au masculin, on est bien d'accord. Donc ça veut dire que c'est quand même une majorité. Non seulement, effectivement, c'est une corporation, enfin des corporations, mais donc c'est quand même, ça reste une majorité d'hommes.
Et on a été aussi l'objet, durant cet examen de loi, de communiqués de presse
diffamatoires,
enfin assez violents, hein, faut être clair, de par certains syndicats de médecins à notre encontre.
Injustifié.
Oui, en gros, c'est très bien que vous soyez là quand il y a urgence et quand on a besoin de vous, mais s'il vous plaît, faites pas trop de vagues, quoi.
C'est ça. On a peur de nous.
Restez à votre place.
Je pense qu'il y a aussi une peur de la concurrence, mais une concurrence qui n'est pas une concurrence. En fait, on travaille ensemble, on a chacun notre place. On ne va pas aller voler, entre guillemets, le travail de l'autre. On travaille en cohérence, en bonne intelligence, ensemble. Et sur le terrain, je le redis, hein, sur le terrain, ça se passe bien, en fait.
Bien sûr.
C'est vrai que la Drôme Ardèche, c'est quand même un exemple de travail en bonne intelligence, en complémentarité. On a cette chance-là sur notre territoire.
Alors, je vais faire une petite remarque, mais il vaut mieux parce que les gynécologues, il n'y en a plus. Alors, on est en grand manque de toute façon. Donc,
c'est pour ça que les sages-femmes se positionnent.
Voilà. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse considérer qu'on est en manque.
Alors, effectivement,
c'est un glissement. En fait, on a été habitué. Et moi, je suis issue d'une famille de médecins où, quand j'étais jeune fille, pour mes premières consultations, on m'a dit « va voir un gynéco ». Bon, aujourd'hui, c'est plus ça que je dirais aux jeunes filles. Je dirais « va voir une sage-femme ». Mais pas parce que le gynécologue ne leur apporterait pas une bonne réponse. Bien sûr qu'il est tout à fait apte à donner une bonne réponse sur un suivi normal. Mais si les personnes qui vont bien vont voir des sages-femmes et qu'on utilise les gynécos pour leurs compétences médicales dans la pathologie uniquement, il n'y a pas d'encombrement. Comme on peut voir dans des zones rurales où les gens vont être suivis par un médecin généraliste en pédiatrie, ne vont pas voir de pédiatre, mais vont voir un médecin généraliste qui a l'habitude de faire de la pédiatrie, qui est tout à fait apte à suivre les enfants, et qui à nouveau transfère vers les pédiatres. Et donc, si les pédiatres gardent la pathologie, si les gynécos gardent la pathologie, on n'a pas d'encombrement. Il y a un nombre suffisant.
C'est juste une évolution des mentalités aussi.
Il faut qu'elles évoluent.
Parce que moi, je fais partie des générations où on ne parlait pas des sages-femmes. Hein. On allait voir un gynéco.
Parce que nos compétences ont aussi augmenté ces dernières années. Donc, on ne vous en veut pas, c'est normal.
C'est gentil, merci.
Mais en tout cas, c'est important. On m'a posé la question la dernière fois. La comparaison qui est pour moi la plus flagrante, c'est quand vous avez un problème de dents, vous allez voir le dentiste. Personne n'a le réflexe d'aller voir un stomatologue, qui est le médecin spécialisé. Et le dentiste, quand il vous envoie voir le stomatologue, il n'est pas dévalué.
Bien sûr.
Il est juste à la limite de ses compétences. Lui aussi, il a des prescriptions qui sont limitées à sa profession. Et voilà. Donc, la sage-femme, c'est au même titre. Ça choque personne d'aller voir un dentiste. Ça choque personne d'aller voir une sage-femme.
Moi, je voudrais rebondir sur le dentiste, puisqu'effectivement, il peut faire des prescriptions qui sont définies dans ses compétences.
Définies, oui.
Et les sages-femmes sont la seule profession médicale où on a une liste de prescriptions, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on a besoin pour exercer notre art, notre compétence. C'est nous avons le droit, par exemple, je donne un exemple un peu ridicule, mais je peux traiter une infection urinaire si la femme est enceinte, mais si elle n'est pas enceinte, je ne peux pas la traiter.
Et on rire, hein, presque.
Ouais, non, mais enfin, il y a beaucoup de choses en fait comme ça dans notre profession qui sont un peu risibles, on va dire, mais au quotidien, c'est fatigant.
Bien sûr.
C'est délétère surtout pour les patients.
C'est délétère pour les patients.
Ça multiplie les consultations. La patiente elle vient voir pour ça, vous prescrivez un examen, vous l'analysez, vous avez l'antibiogramme, vous savez ce qu'il faut donner, c'est notre job. On pourrait, ben non, il faut. Vous passez par le médecin. Enfin, c'est complètement
incroyable. On est les seuls à avoir cette liste. Comme l'ensemble des professions médicales, nous voulons pouvoir prescrire dans le champ de nos compétences. Point.
Voilà.
Et on est tout à fait consciente de notre responsabilité qui est engagée. Donc, on ne va pas s'amuser à prescrire dans des domaines qui ne sont pas.
Bien sûr. Qui nous concernent pas,
oui, évidemment. Non, ouais.
Alors, je vous propose de faire une seconde pause musicale et qui fait bien le. Bah, du coup, qui est bien en écho avec tout ce qu'on vient de dire, et de, parce qu'elles sont en colère et elles ont raison. C'est Clara Luciani avec La Grenade. Prenez garde, oui, prenez garde, et vous pourriez bien prendre garde aussi aux sages-femmes qui sont autour de nous, qui sont autour de moi dans ce studio, et aux femmes en général, parce que c'est vrai quand on s'énerve, bah, c'est rarement pour une mauvaise raison, et c'est surtout qu'on peut se faire entendre. Vous écoutez Radio BLV 93.6, c'est le Mars des femmes sur Radio BLV, et c'est une spéciale sage-femme, comme je le disais. On a regardé un petit peu, on s'est baladé dans votre parcours, dans la colère qui est portée aujourd'hui. Je rappelle que les sages-femmes hospitalières sont en grève aujourd'hui. Avant la médecine moderne, la sage-femme, c'était l'accoucheuse. C'était une femme respectée, parfois un peu crainte, et qui même pouvait susciter la méfiance chez certains ou certaines, tant la grossesse et l'accouchement sont fondamentaux et mystérieux pour l'humain et l'humaine en général. Alors, il y a toujours une part de magie dans une naissance, même aujourd'hui, où on sait que, on est persuadé de détenir tous les secrets de la vie. J'ai parlé beaucoup de naissance, j'ai parlé d'accoucheuse, c'était volontaire, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a commencé à en parler. Les champs de compétences et les champs d'action, on va dire, de vos métiers sont beaucoup plus larges que l'accouchement. C'est vraiment l'accompagnement des femmes durant toute leur vie, de l'adolescence. Alors, on va dire de l'adolescence à la ménopause parce que c'est des grands moments, mais on peut dire de la naissance à la mort quasiment. Enfin, c'est vraiment, vous êtes les accompagneuses.
Oui, on est effectivement en première ligne. Alors, dès l'adolescence, parce qu'en tant que sage-femme, on a un rôle dans la prévention qui est loin d'être négligeable. En tout cas, il ne l'est pas pour le gouvernement, puisque la prévention, c'est faire des économies dans le domaine de la santé. Alors, en tant que sage-femme, on ne le voit pas tout à fait comme ça. La prévention, c'est prendre en charge les jeunes filles et leur apprendre à comprendre comment fonctionne leur corps, à repérer, elle le disait très bien Sophie, comment le corps fonctionne, la normalité et puis quand ça va pas. On initie un suivi gynécologique, on leur parle de sexologie, les premiers rapports sexuels. D'ailleurs, on peut aussi en parler aux garçons. On intervient dans des collèges, dans des lycées. On prescrit ensuite la contraception. On est là s'il y a un parcours d'interruption volontaire de grossesse. Et puis, si c'est un parcours de grossesse, que ce soit dans le cadre de la procréation médicalement assistée où il y a des sages-femmes, ou dans le cadre de grossesse programmée avec un arrêt de pilule, on est là dès le départ. On les accompagne pendant effectivement tout le suivi de grossesse en réalisant parfois également les échographies. On est évidemment là pour l'accouchement, mais ça on ne le sait que trop. Et on est là aussi dans l'accompagnement psychologique et moral de nos patientes et de nos couples, c'est-à-dire qu'on oublie souvent, et on le dit peut-être plus, mais peu en tout cas aux étudiants en maïeutique, la sage-femme, elle est aussi là dans les moments qui sont compliqués. Quand on a un désir d'enfant, mais qu'on n'arrive pas à avoir un enfant. Quand on est enceinte et qu'on perd un enfant, que ce soit une fausse couche, que ce soit une mort fœtale, mais il y a aussi des interruptions médicales de grossesse pour différents motifs. Et on est là aussi. On est là pour accompagner des jeunes filles qui sont enceintes et qui ne le voulaient pas forcément et qui sont parfois très jeunes, 13, 14, 15 ans. Donc oui,
qui font face à des maladies, MST ou autres, parce qu'on en parle un peu moins, mais
et puis on est aussi là pour les patientes, les femmes qui accouchent sous le secret et qui confient leur enfant à l'adoption. La sage-femme a aussi ce rôle d'accompagnement. Et voilà, on est là dans des moments très, très heureux, mais ce n'est pas une profession qui est rose, bonbon, comme les dragées. C'est aussi une profession qui est difficile. Et on se doit de donner un accompagnement de grande qualité, puisque ce ne sont que des moments primordiaux pour les femmes.
Bien sûr.
On ne peut rien négliger.
Et après, donc, effectivement, il y a tout ce passage. Et puis, il y a tout l'accompagnement dans la vie. Enfin, voilà. Après, c'est la contraception de femmes adultes.
Elisa, qui est en secteur hospitalier, voit sans doute moins, du coup, les patientes plus âgées. Mm-hmm. Mais en libéral, moi, j'ai une patientèle de tout âge. Et j'accompagne aussi les femmes dans une période qui n'est pas très facile à vivre, qui est la phase de préménopause et de ménopause. Donc là, on n'a pas le droit de prescription des médicaments, des substitutifs hormonaux, mais ce qui est plutôt une bonne chose, puisqu'on ne veut pas de toute manière en prescrire. Mais on est quand même là pour les accompagner, leur expliquer ce qui va se passer dans les différents changements de leur corps, leur état, psychologiquement aussi, où elles en sont. Et là, c'est un travail à nouveau d'accompagnement. C'est une étape de vie qui est forte. Chez la femme, on a des grands moments de vie, et celui-là, en étant aussi qu'il faut savoir passer. Et la sage-femme l'accompagne aussi, là.
Et c'est d'autant plus important d'avoir les bonnes informations, d'avoir les bons conseils, parce que Alors là, on va parlons justement de cette étape particulière où c'est plutôt en négatif, qu'on nous présente toujours en négatif, avec la seule issue,
se libérer de la contraception et de pouvoir enfin assumer sa sexualité sans limite.
Ça fait du bien d'entendre.
On n'est pas à mettre au placard après la ménopause. Non, mais il faut passer ce cap. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de la puberté aux femmes quand même. Mais la ménopause intéresse pas grand monde. La femme en général, bof. Et la femme de plus de 50 ans, bof, bof. Donc nous, on est là aussi dans ce moment-là, ouais.
Quand on demande la révision des décrets de périnatalité de 1998 et de revoir le nombre de sages-femmes à l'échelle du territoire, c'est aussi pour que toutes ces compétences soient pleinement utilisées dans l'intérêt du suivi de nos patientes. On est très peu nombreuses et on se rend compte qu'on a une carte à jouer dans le domaine de la périnatalité, de la gynécologie. Donc beaucoup de choses où il faut qu'on soit là pour les femmes et on est très peu nombreuses.
Et on a beaucoup de tâches aussi qui nous demandent du temps, c'est-à-dire que l'accompagnement, l'écoute, la bienveillance, ça ne se fait pas en 10 minutes entre deux consultations. Que ce soit la préparation à la naissance ou quand on vient voir une jeune maman qui vient juste de rentrer de la maternité, on ne peut pas l'expédier en 20 minutes. Enfin, elle a des choses à déposer, elle a plein de questions. Les accompagnements d'allaitement aussi qui peuvent prendre du temps. Observer un bébé qui tète au sein, ça ne prend pas 5 minutes non plus. Donc on prend du temps aussi pour les femmes et le temps, c'est extrêmement précieux.
C'est très précieux, mais c'est absolument pas valorisé.
Ah, pas du tout. Ben,
jamais, de toute façon.
Pas du tout.
Alors, dans cet accompagnement que vous faites, vous avez beaucoup parlé de la dimension psychologique. On a beaucoup parlé du droit. Voilà, on est le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, l'accès aux soins n'est pas, même s'il est un droit sur le papier, dans la réalité, n'est pas un droit pour l'ensemble des femmes. Pour des milliers de raisons, hein, parce que c'est vraiment multifactoriel cette histoire-là. Est-ce que vous voyez, on sait aussi, l'autre jour on avait la banque alimentaire au téléphone, on sait que de plus en plus de femmes font appel aux différentes associations, et notamment de mamans solo, qui se retrouvent de familles, ce qu'on appelle les familles monoparentales, qui sont, je crois que c'est à 98% des femmes avec leurs enfants. Est-ce que vous voyez dans votre métier, dans votre patientèle, ces inquiétudes, ces situations difficiles, est-ce que vous avez l'impression d'en voir de plus en plus de ces jeunes femmes, je parle de jeunes femmes ou de moins jeunes femmes, qui sont dans des situations vraiment difficiles pour de multiples raisons?
Alors je pense que notre profession a évolué et qu'on repère les situations de précarité et de grande vulnérabilité bien mieux qu'avant. Notre profession, ce n'est pas que de l'obstétrique ou de la gynécologie ou de la pédiatrie, ce serait vraiment réducteur. On prend en charge la femme dans sa globalité et on s'attelle à connaître ses besoins. Et c'est les femmes, en fait. C'est d'une évidence, mais c'est les femmes, en fait, qui nous disent de quoi elles ont besoin. Et l'entretien prénatal précoce, par exemple, mais en fait on le fait à chaque consultation, nous permet de pointer du doigt avec elles de quoi elles ont besoin. Et oui, c'est vrai que les situations de précarité et de grande vulnérabilité, on les dépiste bien mieux qu'avant. On a des femmes qui ont des revenus très très modestes. Oui, on a des femmes isolées, on a des femmes qui ont des parcours de migration et qui ont vécu des violences extrêmes, tant morales, physiques que sexuelles. Je pense qu'on les dépiste mieux.
Et vous avez plus d'outils, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir plus d'outils justement d'endroits où les pour pouvoir leur conseiller d'aller à tel ou tel endroit ou de leur proposer des solutions
Alors, en tant que sage-femme de PMI, je me permets de rebondir, puisque ça fait partie voilà, des suivis qu'on accompagne plus particulièrement. Alors, la PMI, c'est pour tout le monde. C'est pas uniquement pour les patientes vulnérables, mais c'est vrai qu'on a une plus grande proportion de patientes vulnérables. On travaille en lien avec les associations, avec les assistantes sociales, avec les péricultrices, avec le milieu hospitalier. C'est vraiment un travail de coordination qui est très global, en fait.
Nous, on a la...
Vous n'avez pas fini.
Si, si, c'est bon.
Nous, on a la chance, je rebondis en fait sur ce que tu viens de dire, Émile, on a la chance en, dans la Drôme d'avoir un parcours de soins qui s'appelle le parcours Valériane et qui prend en charge les patientes qui vivent des situations de précarité et de vulnérabilité extrêmes. On travaille en lien avec l'ARS et donc encore une fois, on a un territoire qui est quand même assez avant-gardiste puisqu'on a, j'ai la chance d'avoir un poste de coordination ville-hôpital. On a la chance d'avoir l'ARS qui nous soutient dans ce parcours de soins particulier. Et effectivement, on travaille avec tous les intervenants existants, les associations. Et nous, les sages-femmes de PMI, c'est elles qui sont au plus proche des patientes. Et elles sont d'un soutien infaillible et quotidien pour nous, équipe hospitalière.
Alors, on arrive à la fin de ce temps ensemble. On pourrait, comme je dis souvent, on pourrait faire 3 heures parce que c'est vraiment le cas. Il y aurait vraiment de quoi dire. On est le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Est-ce que dans des places où vous vous trouvez, quel regard vous portez à la place des femmes, justement ? Est-ce que vous avez le sentiment que la place des femmes évolue ? Ou que vous avez et pas seulement la femme qui porte un enfant, mais vraiment est-ce que vous avez le sentiment que dans le milieu médical au sens le plus large possible, la place des femmes perd un petit peu de sa
Moi j'ai quand même l'impression, j'ai plutôt tendance à être optimiste. Et oui, quand même, j'ai l'impression qu'on est plus écoutées, plus présentes, plus entendues. On est 4 nanas à parler aujourd'hui. Enfin, je pense quand même que globalement, on avance et qu'il faut continuer à avancer. Il ne faut pas rester là où on est parce qu'on n'est pas encore arrivé. Ça, c'est évident. Mais oui, les patientes, elles nous trouvent, par exemple. Elles savent qu'on les écoute. Il y a encore beaucoup de travail, mais je pense que quand même...
Il y a du mieux.
Il y a du mieux, j'en suis convaincue.
Je pense que le champ des possibles est encore bien large. Et je rêve d'un monde aussi où les femmes auront vraiment le choix. Enfin, on parle de droit des femmes et j'aimerais que les femmes aient le droit de choisir comment est-ce qu'elles ont... Enfin, quelle contraception elles ont envie, pas celle-ci vous convient, de où j'ai envie d'accoucher. Est-ce que c'est en milieu hospitalier, en niveau 3? Est-ce que c'est dans un plateau technique? Est-ce que c'est en maison de naissance?
À domicile.
Qui est un réel choix. En fait, des femmes. Et ça passera aussi par le travail avec les femmes, parce qu'on est 23 000 sages-femmes en France, on n'est pas très entendues, et on arrivera vraiment à avancer si les femmes sont à nos côtés, parce qu'on se bat vraiment pour elles.
C'est une lutte de tous les jours, moi, je pense. C'est rien... La marge de manœuvre est large, effectivement, mais il faut se battre au quotidien pour que nos droits, effectivement, ne disparaissent pas.
Je crois que tout est dit. Je vous propose, moi, on va terminer avec Grand Corps Malade, Mesdames, parce que c'était aussi un de vos choix musicaux. Merci infiniment à toutes les trois d'avoir été là. Merci pour tous nos auditeurs et auditrices, parce que je pense qu'ils sont comme ils et elles sont comme moi, ils ont appris plein de choses. Et puis, continuez à vous battre et on sera à vos côtés. On est à vos côtés et on sera à vos côtés. Et merci.
Merci beaucoup. Merci.
Acceptez, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures. Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
Sur Radio BLV.
C'est le Mars des femmes 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 sur Radio BLV.